Chapitre 7. Dieu, que le son du cor est triste au fond des bois. Ce fut par une matinée grise et pluvieuse d'automne que Florent Mauguin se rendit à la gare du Nord. Aussitôt après avoir lu le billet de Daniel, il avait couru chez tous ses amis de manière à trouver l'argent lui permettant de quitter Paris. Mais personne n'avait pu lui en donner. Le lendemain, il s'était rendu chez sa mère. Elle habitait, à présent, un petit appartement à Passy, avenue du Général Thierry, avenue, d'ailleurs, qui n'était pour le moment qu'une impasse. Elle s'était fait beaucoup d'amis parmi les antiquaires du quartier. Elle leur servait de démarcheurs, c'est-à-dire qu'elle relançait, et les passants qui n'avaient fait que laisser leur adresse, et les anciens clients. Auparavant, elle demandait des adresses de gens susceptibles de vendre à vil prix des meubles anciens, des objets de grande valeur, si bien qu'à présent, son petit appartement était devenu une sorte d'agence où affluaient offres et demandes. Il était 11 heures du matin lorsque Florent arriva à Chantilly. Il ne pleuvait plus, mais le ciel était couvert, la ville balayée par un vent doux. Ce ne fut qu'après bien des détours inutiles que la voiture dans laquelle le peintre était monté s'arrêta devant l'auberge du carrefour de Cuise. Florent déjeuna rapidement d'une omelette et d'un verre de vin blanc. Il avait hâte d'aller reconnaître le lieu où Daniel lui avait donné rendez-vous. De paysages plus romantiques, il n'en avait jamais vu. L'eau de l'étang, qu'on apercevait entre les lotus, les branchages et les feuilles mortes, avait des reflets de perles noires. Sur l'autre rive, des arbres se dressaient, à demi dénudés, comme un fond de dentelle jaunie. Et derrière ces arbres, une colline s'étendait, noyée à son sommet, comme l'eût été une montagne, de brume. Il était 3 heures de l'après-midi. Depuis la veille, il avait plu sans discontinuer. Aussi, de la nature entière émanait une humidité chaude et brillante qui, au lieu de faire songer à la mort et à l'hiver imminent, évoquait les germinations sourdes du printemps. La campagne se mourait dans une sorte d'abondance étrange. Sur la droite, au-dessus d'un bosquet, on apercevait le toit d'ardoise, noir et luisante comme la surface unie de l'étang, du pavillon de chasse. Plus loin, un champ long et mince s'étendait entre deux murailles d'arbres. Quelques chevaux paissaient en liberté. C'était au bout du champ, à travers une rangée d'arbres moins épaisses, que l'on apercevait une partie de la façade blanche du château de Celles. Florent suivit le petit sentier qui longeait l'étang. La beauté de ce paysage lui faisait regretter d'avoir laissé à l'auberge sa boîte de couleurs. L'habitude professionnelle lui avait fait calculer que la lumière lui eût permis de peindre une bonne heure et il ne se pardonnait pas de ne pas y avoir pensé. Des oiseaux chantaient. À mesure que le crépuscule approchait, on les entendait mieux, comme si la venue de la nuit les incitait à dépenser le reste de leurs forces. Soudain, à un détour du sentier, il s'entendit appeler. « Florent ! Florent !» C'était la même voix que celle qu'il avait entendue avenue du président Wilson, au milieu des voitures, mais combien plus douce et plus grave. Il s'arrêta. « Florent » perçut-il de nouveau. « Daniel » fit-il à son tour. Jamais il n'avait élevé la voix à la campagne. Aussi qu'elle ne fut pas sa surprise de constater qu'elle était à peine aussi sonore que celle d'un oiseau. « Daniel !» répéta-t-il plus fort. L'écho répondait encore qu'il se sentit pris par le bras. « Vous » murmura-t-il en regardant la jeune fille, sur les épaules de laquelle perlaient des gouttes prises au buisson. « Je craignais que vous ne vinssiez que demain, peut-être même qu'après-demain. Je voulais vous voir le plus vite possible. Hier déjà, je suis venue ici avec l'espoir insensé de vous rencontrer. Si vous me l'aviez dit dans votre mot, je serais venue. » répondit Florent, sans songer que cela n'avait été que la veille au soir qu'il avait pu se procurer de l'argent. « Vraiment ?»« Oui, Daniel. » Il ôta la main de la jeune fille, prit à son tour cette dernière par le bras. « Marchons, voulez-vous » dit-elle en secouant ses cheveux blonds et en respirant à plein poumon l'air tout parfumé de verdure. « J'ai envie d'aller droit devant moi, de me perdre, de marcher, marcher des heures et de me retrouver dans un pays inconnu. »« C'est que la nuit ne va pas tarder à tomber, » observa le peintre, un peu effrayé par cette ardeur. « Ne pensons pas à cela. Venez. » Le sentier que tous deux suivirent les conduisit bientôt à la lisière de la forêt. À chaque instant, dans les fourrés, on entendait comme le passage d'une bête. La pluie qui tombait des arbres faisait un crépitement monotone. « Croyez-vous vraiment qu'il soit prudent de nous aventurer dans la forêt à cette heure-ci »« Même si c'est imprudent, faisons-le. C'est si agréable de se sentir libre, de savoir que personne ne vous attend, d'avoir pendant quelques heures l'illusion de n'appartenir qu'à soi-même. » Prenons ce chemin dans ce cas. Florent désigna une allée à demi défoncée par des roues de chariot et couverte d'une herbe couchée. Les deux jeunes gens s'y engagèrent. Le peintre, qui n'avait que des chaussures de ville, ne tarda pas à avoir l'impression de patauger dans l'eau jusqu'aux genoux. Son pantalon long lui collait au mollet. Mais dans la joie où il était, il eut eu honte de songer, ne serait-ce qu'un instant, à ces misérables détails. Ils arrivèrent ainsi sans parler, tout à leur bonheur, à une éclaircie sur laquelle donnaient trois autres allées. Un banc se trouvait là. « Voulez-vous que nous nous reposions un peu ?» demanda le peintre, que le grand air et cette marche dans l'herbe mouillée avaient épuisé. « Si vous voulez !» Ils prirent place l'un à côté de l'autre sur le banc humide. Le ciel s'obscurcissait lentement. Une paix profonde tombait sur la forêt. « Vous disiez tout à l'heure, fit Florent, que personne ne vous attendait. Vous ne devez pourtant pas être seul au château. »« Oh non, nous sommes six, ma tante, son mari, le gardien, la cuisinière, le valet de chambre et moi. Mais personne ne s'occupe de moi. Mon père a beau faire la leçon à mon oncle, ce dernier m'aime beaucoup, et quand je viens ici, il me laisse faire tout ce que je veux. » »« Oui, mais si nous voulons nous revoir chaque jour, » continua Florent, sur qui les conséquences de la promenade qu'il avait faite à Paris avec Daniel avaient fait impression, « il vaut mieux ne pas éveiller l'attention de votre famille. » « Je rentrerai quand la nuit tombera. Mon oncle sait que j'aime à me promener seule dans la forêt. Il connaît mon goût de l'indépendance. » Ils se turent. Brusquement, l'un et l'autre avaient eu conscience de leur isolement. Ils éprouvaient le besoin de garder le silence. La main dans la main, ils ne se regardaient même pas, si grand était leur trouble. Soudain, dans le lointain, des cors résonnèrent tristement. « Je ne savais pas qu'on chassait aujourd'hui, » dit Daniel, comme au sortir d'un rêve. « Il faut nous dépêcher de rentrer, sans quoi nous allons nous trouver sur le chemin de retour de l'équipage. » Florent se leva. La plainte des cors se faisait toujours entendre. Daniel ne bougea pas. « Ne trouvez-vous pas cela admirable? Je resterai des heures à l'écouter. » Finalement, la jeune fille se leva. « Oui, rentrons, » dit-elle à regret. Il y avait à peine une dizaine de minutes que les deux jeunes gens marchaient, lorsque tout à coup ils perçurent le galop d'un cheval. Florent se retourna. Arrivant sur lui, il distingua, au bout de l'allée, un cavalier. « Entrons dans ce fourré !» fit Daniel. « C'est trop tard, nous avons été vus. » Quelques instants après, le cavalier passa près des jeunes gens. Daniel s'était caché le visage dans ses mains. « Il nous a dépassés, » dit le peintre. Elle baissa les bras. « C'est le comte de Fleurac. Heureusement qu'il ne m'a pas reconnu. » Elle venait à peine de prononcer ces mots que le cavalier s'arrêtait 20 mètres plus loin, descendait de cheval et, tenant celui-ci par la bride, revenait sur ses pas à la rencontre de Daniel. « Qui est le comte de Fleurac ?» s'enquit le peintre à voix basse. « Je vous le dirai plus tard. S'il vous demande quelque chose, dites que nous nous sommes rencontrés par hasard, que vous ne me connaissez pas. » « Je vais être ridicule. » « Je vous en prie, faites ce que je vous dis. » Puis, changeant la conversation, elle ajouta « Les peintres ont toujours eu une prédilection pour la forêt de Chantilly. » « Il me semblait bien que c'était vous, Daniel, » dit le comte de Fleurac. « C'est pour cela que je me suis arrêté. Vous êtes donc à celle et vous ne me l'avez pas dit. » Il regarda le compagnon de la jeune fille, attendant visiblement que la jeune fille le lui présentât. « Je ne peux pas vous présenter, monsieur, » dit Daniel. « Nous venons de nous rencontrer. Monsieur est artiste, je crois. Il cherche un paysage. » Florent Maugas. fit le peintre en s'inclinant et confus de se trouver en pareille posture. « Robert de Fleurac, » répondit le comte froidement. Puis, se tournant vers la jeune fille, il continua « Ce n'est pas prudent, Daniel, de vous promener ainsi dans une forêt à la tombée de la nuit. » « Vous savez, Robert, que j'en ai l'habitude. » Florent regardait Daniel avec étonnement. Il ne pouvait croire que c'était elle qui parlait ainsi. La désinvolture avec laquelle elle feignait de ne pas le connaître lui faisait une peine immense. Si elle l'avait vraiment aimé, comme elle le prétendait, eût-elle eu la force de jouer une pareille comédie ? « Je suis cependant heureux de voir que vous étiez sur le chemin du retour, » continua Robert de Fleurac. C'était un homme de 40 ans, de haute taille, au visage énergique. Malgré tous les efforts que fit Florent pour le trouver antipathique, il ne put s'empêcher de lui reconnaître un grand charme. Le petit groupe se mit en route. Arrivé en vue du château, Daniel s'arrêta. « Me permettez-vous de rendre une petite visite à votre famille après le dîner ?» fit le comte de Fleurac. « C'est à elle qu'il faut le demander, » dit la jeune fille en souriant. « Je le lui demanderai aussi. Pourquoi voulez-vous que je vous le défende ? C'est que vous ne paraissez pas très désireuse de me revoir. Je suis arrivée hier, Robert. Voulez-vous que je vous dise la vérité ? Non, je vous en supplie, dites-moi tout ce que vous voudrez, sauf la vérité. Pourquoi ? Elle me fait peur, elle ne peut que m'être désagréable. Vous vous trompez, je crois. Je voulais vous téléphoner demain pour vous demander de venir goûter. Je l'aurais fait hier s'il n'y avait pas eu chasse aujourd'hui. Mais je ne voulais pas que, pour moi, vous vous priviez de votre plaisir favori. Le visage de Florent, qui jusqu'alors avait été renfrogné, s'éclaira. Il venait de comprendre que Daniel, pour une raison qu'il ignorait encore, était obligé de ménager Robert de Fleurac. Ne venait-elle pas de lui dire qu'elle ignorait qu'il y eût chasse, ce qui était certainement vrai, sans quoi, désireuse comme elle était de ne pas être vue, elle ne se fût pas aventurée avec le peintre dans la forêt. En affirmant le contraire au comte, ne montrait-elle pas à Florent que ses rapports avec lui étaient uniquement mondains ? « Vous rentrez ? » demanda Robert de Fleurac. « Oui, dans un quart d'heure, il fera nuit. Voulez-vous que je vous accompagne ? Il y a longtemps que je n'ai eu le plaisir de voir votre oncle et votre tante. » « J'allais vous le demander. » Florent redevint sombre. Il avait espéré qu'il allait se retrouver seul avec la jeune fille, qu'elle allait lui parler du comte et de tout lui expliquer. Il lui faudrait donc attendre jusqu'au lendemain. La jalousie l'envahissait déjà. Il regarda méchamment son rival. « Au revoir, monsieur, » fit ce dernier, sur un ton beaucoup plus aimable que celui qu'il avait eu pour se présenter. Florent regarda Daniel. « À demain !» dit-elle en tournant la tête de manière que le comte ne la vit pas, et si bas que Florent devina, plutôt qu'il n'entendit, ces deux mots.